Bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. La rétrospective de l'actualité de la semaine, on pensait que la semaine allait tranquillement se dérouler sur la suite du second tour de la primaire du PS avec cet éclatement programmé entre la gauche radicale qui a gagné, incarnée par Benoît Hamon, candidat du PS à l'élection présidentielle, et la gauche plus libérale, incarnée par Manuel Valls, qui allait migrer, qui allait être en marche vers Emmanuel Macron. Eh bien non, rien de tout cela. La seule voix au chapitre cette semaine, ça a été Fillon, avec chaque jour ou presque une nouvelle couche à charge sur le dossier Fillon. Un crash spectaculaire, mais à 2 mois et demi de l'élection présidentielle, tout est encore possible. On peut se refaire, il suffit de courber les chines et d'attendre que la tempête passe. Et c'est bien la stratégie adoptée par François Fillon. Il a demandé à ses parlementaires de tenir 15 jours, que dans 15 jours, on n'en parlera plus, qu'on sera passé à autre chose, que le temps médiatique et de l'opinion est ainsi fait et que les sondages qui le donnent désormais perdant changeront effectivement dans 15 jours. Alors cela dit, les rangs commencent un petit peu à craquer du côté des Républicains. En témoignent ces noms de domaines qui ont été récemment déposés. Vauquier2017.fr, Barouin2017.fr, Bertrand2017.fr. Des symptômes qui montrent tout de même que la crise est bien grave chez les Républicains et qu'un renoncement de François Fillon à la candidature à l'Élysée n'est pas une hypothèse complètement écartée. Une autre élection qu'on a eue cette semaine, c'est celle de Miss Univers, et c'est la française Iris Mittener qui a été élue Miss Univers, étudiante en 5e année de chirurgie dentaire tout de même, chirurgie à laquelle elle n'a pas eu recours pour sa plastique, et c'est assez exceptionnel dans ce concours Miss Univers. Mais ce qui est exceptionnel, c'est la censure dont elle a été victime dans la presse française. Parce que interrogée sur la crise des migrants dans le monde entier au cours de la soirée électorale de Miss Univers 2016, la française Iris Mittener a plaidé pour la possibilité de fermer les frontières. En France, pour le moment, nous avons nos frontières ouvertes, mais si un jour nous décidons de les fermer, je pense que c'est un droit que nous avons. Et bien, pas une ligne, pas un mot dans toute la presse française. Ça a été complètement censuré. Même la presse française a donné l'exact contraire du sens de sa proposition en affirmant qu'elle avait fait un plaidoyer pour l'ouverture des frontières. Et après, on s'étonne de la crise de confiance des Français envers leurs médias. À propos des frontières, bien sûr, les décrets de Donald Trump ont continué d'alimenter la chronique cette semaine. Il en a viré sa ministre de la Justice, Donald Trump, parce qu'elle ne voulait pas, elle qui avait été, cela dit, nommée par l'administration Obama, appliquer ces décrets interdisant cette nationalité d'entrer sur le sol américain, parce qu'il s'agit de 7 pays où le risque terroriste existe. Et l'actualité de fin de semaine à Paris a donné de l'eau au moulin à Donald Trump, qui ne s'est pas privé de tweeter après l'attaque terroriste déjouée au Louvre vendredi matin. Ouvrez les yeux, a tweeté le président américain. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
Et RVE 103.7, dans quelques instants, nous retrouvons le sport avec Philippe Carnus de Tribune Sport. La météo pour ce dimanche, c'est pas terrible. On va avoir un ciel très variable avec de gros nuages et des averses, de rares éclaircies dans l'après-midi. Les températures ne dépasseront pas, allez, je vais être gentil, les 7 à 8 degrés. Tout de suite, le sport sur RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu.
Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. On avait une actu sportive particulièrement riche et dense ces dernières semaines. Eh bien, on va être encore tout foot ce matin avec une actualité aussi très chargée. On va commencer avec une partie de l'équipe qui était avec nous la semaine dernière. On va saluer celui qui a apprécié la victoire assez nette de Bodigol. C'est notre ami José Vega. Comment ça va, José?
Très bien, bonjour Philippe.
Quelle actu sportive, hein. Oui, et l'actu foot, elle est aussi tout azimut.
La semaine dernière. Oui, pour revenir sur Bold Eagle, on l'avait dit avec Boris, c'est un grand champion. En ce moment, c'est un des meilleurs chevaux du monde. Et je pense qu'il y a eu une petite déception dans le Prix d'Amérique, peut-être Timoko, qui était une de ses dernières courses. Il arrive à 10 ans, il a gagné quand même pas mal d'argent. Mais pour revenir à Bold Eagle, c'est un grand champion.
Voilà, Donc il va replonger dans le ballon rond.
Et je pense qu'il en gagnera d'autres puisqu'il a que 6 ans. Je pense qu'il a encore le temps de d'égaler Ourasi qui en a 4, prix d'Amérique, qui en a gagné 4. Et il fait partie des très grands champions de sa génération et je pense qu'il va en gagner encore une ou deux, voire même 3. Voilà. Il peut même battre le record d'Ourasi peut-être.
Allez, José, donc il va plonger dans le ballon rond ce dimanche. Il va aussi plonger dans le ballon rond après avoir parlé tennis, avoir suivi l'équipe de France de hand. C'est Arnaud. Salut Arnaud, ça va ?
Bonjour Arnaud, ça arrive ?
Ouais. Quel week-end de sport la semaine dernière, hein. Match de légende avec la victoire de Federer et puis l'équipe de France de hand qui enfin est parvenue à obtenir un sixième sacre, 33-26 contre la Norvège.
Ouais, bah écoutez, rien pourra les arrêter. C'est bleu, il pourra rien leur arriver. Ils seront champions jusqu'au bout et ils continueront de nous faire rêver jusqu'au bout. Ouais.
Match assez facile pour l'équipe de France en deuxième mi-temps.
En deuxième mi-temps,
elle a souffert en première, mais ensuite elle a fait la différence sur sa puissance physique en deuxième.
Bah en première, elle a souffert parce qu'à 3 minutes de la mi-temps, elle était à moins 3 et après le très beau retour et le dernier but de Valentin Porte à la dernière seconde de la première mi-temps a mis l'équipe de France sur les bons rails et derrière, tout était joyeux, il n'y avait plus qu'à enchaîner. Ouais.
Voilà, 6 titres de champion du monde, 3 titres de champion d'Europe, 2 titres de champion olympique. L'équipe de France est sur le toit du monde. Federer, la légende.
Federer, ça me fait craquer. Très honnêtement, quand j'ai vu la balle de match, j'en ai eu des frissons. C'est 35 ans, un 18e titre du Grand Chelem, en plus contre Nadal au bout d'une finale de dingue, mais vraiment de dingue. C'est ce qu'on disait dimanche dernier en arrêtant Tribune Sport à un set partout. On avait dit, restez dans votre canapé, c'est l'histoire du tennis qui s'écrit aujourd'hui. Et bah, ça a pas raté. L'histoire du tennis s'est écrite dimanche dernier.
Effectivement, avec un match qui fera date, 18e tournoi du Grand Chelem pour Federer. Voilà. Francis Coche, que je salue. Francis, il a un peu la gueule de bois. L'équipe de France de rugby a été battue hier, 19-16. Francis, un match que l'équipe de France n'aurait pas dû perdre.
Oui, bonjour Philippe.
Ça va bien,
c'est
bon.
C'est un match qu'on n'aurait pas dû perdre. Mais enfin, bon, je dirais que l'espoir revient parce que bon, l'équipe de France fait des bonnes performances avec des jeunes. Parce que hier, j'ai découvert certains que je ne connaissais pas. C'est dommage.
Beaucoup étaient avec Saint-André déjà à l'époque.
Oui, tout à fait. Oui, mais tout de même pas mal. Il y a des noms avec Saint-André que je connaissais pas très sincèrement hier. Mmh. Bon, la différence, c'était le coaching des Anglais dans les 10 dernières minutes parce que les 3 qui sont rentrés ont été perforants, je dirais.
Le traditionnel réalisme et la traditionnelle efficacité.
Pas forcément.
Ouais. Mais... Ah, si, les Anglais, ils ont concrétisé dans leur temps fort.
C'est le banc qui a fait la différence là,
oui,
hier.
Oui, justement. Voilà. Ouais, ouais. Mmh. Très bien. Allez, notre sphinx à nous, Edouard. Comment ça va, Edouard?
Oui, ça va bien.
Hein,
ça va très bien.
Ouais, oui, ça va. Donc, on va beaucoup parler d'une grosse actu foot,
oui,
Juliette.
Ça va,
le Paris Saint-Germain va mieux?
Oui, bonjour.
En cette entame de 2017.
Oui, ça y est. Bon, le Paris Saint-Germain se maintient. Et puis, l'essentiel, c'est de gagner, que ce soit avec difficulté ou facilement. Mais il faut gagner.
Ah, ben les Anglais, c'est ça pour
le
Paris
Saint-Germain.
Voilà. Et puis, il est en colère ce matin. C'est notre ami Bibi Moreau. Il y a le derby ce soir. Mais il est en colère. Après, c'est Stéphanois.
Ouais.
J'allais dire battu. Après sa défaite, j'ai reçu un petit SMS de Bibi pour tout dire, qui était très en colère sur la défaite.
Élimination
des Verts à Auxerre en Coupe de France.
Bonjour à tous, oui. En espérant que les Verts ne descendent pas cette année.
Non, quand même pas.
Oh, on n'en est pas loin. On est à 8 points du premier relégable. Non, mais c'est mauvais.
Voilà. Donc on va saluer Boris qui est parti en congé, puis ainsi que nos amis marseillais Pierre et puis Olivier qui sont aussi en vacances. On reviendra donc sur un chapitre très important, la Coupe de France. Un mois de janvier, c'est toujours traditionnellement un mois très chargé sur la Coupe de France. On parlera de la Coupe de la Ligue, du championnat de France, naturellement Ligue 1. On en est à la 23e journée. Arnaud nous fera un petit dossier sur un mercato qui a été très très agité. On a eu un beau mercato cet hiver. Et puis on parlera un tout petit peu de la CAN. Auparavant, chapitre Coupe de France. Vous savez qu'on s'était quitté il y a un mois sur Sainte-Geneviève-des-Bois qui devait jouer son 32e de finale contre Caen, et puis sur Fleury Mérogis, aussi qui devrait affronter l'équipe de Brest. Bon, on s'était quitté sur le report ce match, on y était quand même retourné le dimanche après-midi puisque Clément Turpin avait validé donc ce match, et il n'y a pas eu photo à Sainte-Geneviève-des-Bois où l'équipe de Caen s'est imposée 3-0. Là aussi, la fameuse efficacité, le fameux réalisme ont payé, à l'image des deux buts marqués par Rodelin, qui à la 25e minute a su profiter d'une bourde du gardien de Sainte-Geneviève pour ouvrir le score, alors que le premier quart d'heure avait été largement à l'avantage de Sainte-Geneviève-des-Bois, sans toutefois avoir d'occasion. Rodelin a remis ça juste avant les mi-temps, 45 25e minute, hein, récupérant à ballon perdu. Et ensuite, ben, en deuxième mi-temps, le score a été complètement parachevé pour Caen, avec un pénalty de Santini, le Croate, à la 56e minute. Pénalty donc sur une Panenka. Donc, même si Saint-Gervais ensuite a essayé de réagir, même s'il y a eu notamment deux belles frappes, dont une qui a accompagné Vercroot, le réalisme, l'efficacité étaient côté Canet, et ça n'a pas déçu pour autant le président de Saint-Geneviève-des-Bois, donc Jean-Pierre Mermand, qui malgré tout reconnaissait que son équipe était à son niveau.
Monsieur Mermand, pas trop déçu?
Non, je crois, bon, on a joué une D1, on n'a pas joué n'importe qui, mais c'est dommage, on prend des buts sur des erreurs.
Oui.
Bon, maintenant, on aurait peut-être pris dans d'autres occasions, mais non, là, on a monté une bonne prestation, je pense.
Oui. Un bon premier quart d'heure, hein, pour votre équipe. Hein.
Ouais, même le dernier quart d'heure, je crois qu'on a, on a bien essayé de jouer au ballon, on n'a pas essayé de déjouer, on a joué le jeu, quoi. On n'a pas voulu jouer derrière, on a... Non, je pense qu'on a fait un bon match. Ils n'ont pas de, beaucoup d'occasions, eux. Hein.
Ouais.
On fait trois erreurs, on en prend trois. Bon, on en aurait peut-être d'autres, mais on peut marquer une fois ou deux chez nous. Non, moi, je suis content de la prestation. Non, on va penser au championnat.
Voilà, justement, ça va être facile de relancer maintenant l'équipe.
Oui, sans problème. On a un bon groupe. Ouais. Ils font un bon état d'esprit, une bonne mentalité. Je crois que, non, on a fait... Si on avait fait vraiment un mauvais match, ça aurait peut-être été un peu compliqué. Mais là, bon, il va falloir digérer, hein, et puis la vie continue. Hein.
En tout cas, c'est une belle caisse de résonance pour votre club, que 32e
oui, de oui, bien sûr. C'est la Coupe de France, c'est la seule compétition aujourd'hui qui peut nous mettre un peu devant. Donc, on a profité de ce moment-là. Pardon. Et espérons que, bon, puisse continuer pour la suite. Quoi.
Merci en tout cas.
Je vous en prie, merci.
Voilà, pas trop déçu et réaliste le président de Saint-Gervais-des-Bois, donc Jean-Pierre Mermand. Alors, un entraîneur qui était satisfait, bah, c'était Patrice Garande, l'entraîneur donc de cette équipe, effectivement, de Caen, qu'on a rencontré en conférence de presse.
Bon, qu'ai-je évité ?
Oui. Oui, on est content d'être qualifié, on était venu pour ça, voilà, avec les péripéties en plus de la journée d'hier, enfin, qu'elle nous a habitués, hein, parce que... C'était le deuxième match qu'on devait jouer, qu'on n'a pas joué. Mais bon, on est un, content d'avoir joué, deux, de se qualifier, même si après, dans le match, on a eu un petit peu de mal à rentrer dedans pendant 15 minutes. Cette équipe, qu'il faut saluer d'ailleurs, parce qu'elle a proposé un beau spectacle. Elle a joué sa chance à fond, et pendant un quart d'heure, elle nous a un peu bougé. Puis après, le but de Rony nous a un petit peu, je ne veux pas dire libéré, mais voilà, on a augmenté un petit peu le rythme. Et je dirais qu'on a fait un match sérieux, quoi. Voilà, c'est toujours compliqué ces premiers tours de coupe, mais en tout cas ça s'est déroulé dans un bon esprit, on a été bien accueillis sur le terrain, les choses se sont passées aussi normalement, donc voilà, on n'a pas de blessés, donc tout va bien.
C'est une priorité la coupe?
Ça ne peut pas être une priorité, on ne peut pas être sérieux en disant ça. Après c'est tellement aléatoire, déjà il faut avoir un peu de chance au tirage, puis après les matchs, il faut les jouer, hein. Même quand on joue contre des équipes inférieures, c'est toujours sur le terrain que ça se passe. On a envie, parce que notre club est privé de ça, je ne veux pas dire privé de ça, mais disons que ça fait pas mal d'années qu'on ne flambe pas beaucoup dans cette compétition, et qu'on sait que c'est une compétition qui peut générer beaucoup dans l'enthousiasme, de dynamisme autour de l'équipe. Donc nous, on a aussi besoin de ça. Donc l'idée, vous l'imaginez bien, c'est d'être encore en Ligue 1. Mais à travers la coupe, on peut trouver aussi des ressources, notamment sur le plan mental, qui peuvent nous servir dans le championnat. Donc, on a à la fois l'objectif de gagner le plus rapidement possible le nombre de matchs qu'il nous faut pour être encore en Ligue 1. Et puis aussi d'aller le plus loin possible dans ces compétitions.
Alors on débute les Nantes, après Nantes, c'est
le mois prochain, c'est Lyon d'abord. On joue Lyon dimanche, enfin dans une semaine qui va être une semaine à trois matchs, quoi. Dimanche Lyon, le mercredi on va à Nantes et ensuite nous aussi. Mais bon voilà, c'est comme ça. Hein. Là on n'a pas le choix, donc on se prépare pour. On a fait une bonne première semaine de reprise avec ce match de coupe aussi, qui, dans des conditions difficiles, avec un terrain qui était gras aussi, bah, étant donné qu'on joue que dimanche, va nous permettre aussi. De compter dans la préparation qu'on a mis en place, et puis on va essayer d'être prêt au maximum de nos possibilités pour entamer cette semaine.
Oui, une semaine qui a été une semaine à trois matchs, hein, quand on avait battu Lyon après, avant d'être battu par Nantes dans cette fameuse semaine à trois matchs. Et puis, bah, ils se sont fait sortir en Coupe de France en 16e de finale, donc par l'équipe d'Angers, 2-1. Alors, autre interview ramenée, celle du bon arrière droit de cette équipe de Caen, donc Frédéric Guilbert, qui lui aussi était ravi et satisfait du devoir accompli.
On a réussi notre objectif. Voilà, après, on est tombé sur une très belle équipe de Sainte-Geneviève et voilà, ils n'ont pas lâché et tout le mérite leur revient aussi.
En tout cas, un quart d'heure difficile quand même pour votre entame. Hein,
ouais, c'était compliqué pour nous. Ils ont mis tout de suite de l'intensité. Ils nous ont mis en difficulté sur certaines phases de jeu. Et voilà, et comme j'ai dit, ils ont fait un bon match et bah, heureusement pour nous, on a gagné. Malheureusement pour eux, ils ont perdu.
Ouais, c'est facile comme ça de se mobiliser, de se motiver comme avant un 32e de finale de Coupe de France quand on rentre des fêtes de fin d'année. C'est ça la difficulté.
Ouais, mais nous, c'est notre métier, donc on se doit de gagner ces matchs-là. Voilà, après, comme j'ai dit, ils ont été valeureux et c'est tout à leur honneur.
Le championnat est naturellement prioritaire, une semaine à trois matchs et ô combien importante.
Voilà, nous on a des objectifs de gagner ces matchs-là et voilà, maintenant c'est à nous de répondre présent sur le terrain et voilà.
Le match de Nantes, match en retard, c'est un match à 6 points.
Ouais, ça va être un match important. Maintenant pour nous tous les matchs sont importants et voilà, il y en a d'autres plus importants que d'autres, mais voilà.
Merci Frédéric. Merci.
Voilà, merci en tout cas à Frédéric Guilbert. Puis je vous rappelle qu'on avait aussi les propos de Julien Ferret dans nos différents journaux d'infos. Alors c'est vrai que pour les clubs franciliens, ça s'était pas très bien passé ce week-end-là, puisque Drancy avait été battu par Quevilly-Rouen 3-2, et puis que le Poiré-Survie, équipe de division d'honneur, avait éliminé Viry-Châtillon 3-1. La seule équipe qui restait, bah, c'était Fleury-Mérogis, c'est un match qui avait été reporté et auquel on est allé donc assister quelques jours plus tard. C'était dans le froid du 18 janvier dernier. Et là, l'exploit a eu lieu. Fleury a battu l'équipe de Brest 2-0 grâce au but de Tortero aux 3e et 80e minutes. Hein, l'équipe de Fleury qui tout de suite a marqué. Et ensuite, eh bien, ils ont fait jeu égal avec cette équipe de Brest qui n'a jamais trouvé les solutions et qui a même déjoué sur la fin pour concéder un deuxième but. Alors c'est vrai qu'il y a eu une fin de match un peu difficile, hein, puisque un joueur qui est rentré en cours de match n'était pas sur la feuille de match qu'on nous avait donnée, même s'il était sur la feuille de départ qui avait été donnée aux délégués. Il y a eu quelques petit palabre et puis finalement tout est rentré dans l'ordre. L'équipe de Brest n'a pas voulu donc porter réclamation et le succès de Fleury a été entériné, même si l'aventure s'est arrêtée cette semaine, mercredi, avec une élimination à Avranches sans démériter, 1-0. On va écouter en tout cas donc Valentin Henry, l'attaquant brestois. On lui avait demandé si finalement cette équipe méritait pas quand même son équipe de récupérer sa victoire sur tapis vert. Vous allez voir, il a été très très fair play, Valentin.
Alors, cette fin de match, que peut-on en dire?
C'était un petit peu surprenant d'avoir les deux équipes. On était un petit peu dans le doute par rapport à ce qui se passait. Il y a une réclamation qui a été posée, des faits de jeu aussi qui ont été mal compris et mal appréciés, je pense, par les arbitres, puisque c'était une action quand même anodine qui nous coûte cher, puisque c'est un titulaire indiscutable de notre équipe qui se fait sanctionner. Donc voilà, c'est une fin de match c'est dommage, je trouve, parce que ça gâche un peu la fête d'aujourd'hui. Donc voilà, mais ça fait partie du football aussi. Il y a eu des erreurs qui ont été faites et puis maintenant, je sais pas, on va attendre de voir la suite. On est un peu dans le doute, on sait pas trop encore, donc on verra.
Donc le sportif que vous êtes, vous estimez que vous méritez de gagner ce match?
On méritait de gagner ce match.
Oui, que vous méritez. Non.
On va être
bien. Ouais, c'est bien.
Sur ce match, la victoire est amplement méritée pour eux. Ils ont été plus réalistes que nous. Donc, à partir de là, voilà, c'est dommage. C'est dommage pour nous, c'est dommage pour eux. Après, nous, on est externe à tout ce qui se passe en dehors, donc on va laisser les personnes qui sont en charge de ça de s'occuper de ça. Mais c'est sûr qu'ils ont réalisé un gros match et une grosse prestation, donc voilà, on les félicite quand même.
Bon, les conditions de jeu, c'était les mêmes pour tout le monde?
Chaotique.
Ouais.
C'est vraiment dommage parce que je pense qu'à la base, c'était un bon terrain, donc voilà, mais le terrain a été gelé en pleine partie de tout le terrain presque, mis à part quelques parcelles sur les côtés, donc injouable. On est une équipe qui aime bien poser le ballon, donc on n'a pas eu l'occasion aujourd'hui. Sur le jeu direct, on s'est fait manger. Donc voilà.
Bon, le championnat reste la priorité quand même, hein, plus que jamais.
Le championnat est la priorité. Donc voilà. Maintenant, il y a des faits de jeu qui vont impacter ça aussi. C'est la Coupe de France, c'est comme ça. On va appliquer les choses en conséquence et puis on va retourner au travail lundi parce que ça reste quand même une défaite à digérer et un voyage à avaler aussi.
Merci en tout cas. Merci.
Voilà, alors même son cloche, c'est chez Jean-Marc Furlan, hein, l'entraîneur de cette équipe brestoise, très fair play, et qui reconnaissait la défaite de son équipe, donc devant les journalistes.
Dernière minute, vraiment, il y a beaucoup de tension, là, on n'a pas trop compris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Beaucoup de tension, non, mais pas mal de désordre, oui. En fait, l'équipe adverse a fait rentrer un joueur qui n'était pas sur la feuille de match. Il se trouve que ce joueur, on le connaissait bien, puisque nous, on l'avait eu à 3. Et donc, mon staff a fait son travail, quoi, son boulot. Ils ont posé une réserve sur le fait que le garçon qui rentrait n'était pas inscrit sur la feuille de match électronique. Quoi. Voilà. Mais bon, ceci dit, je viens de voir Grégory Lorenzi, le directeur sportif, il y a 5 minutes. Nous, on n'aura pas de suite à ça. Quoi. Donc, on a perdu sur le terrain, sur le pré, et on en restera là, quoi. D'après la conversation que j'ai eue avec Grégory Lorenzi. Voilà.
Ah, c'est un beau geste, parce que...
Oui, mais
c'est pas pour.
Oui, j'aurais aimé que les arbitres aient eu le même geste en n'expulsant pas mon arrière central, parce que... Nous, les professionnels, on nous demande toujours de jouer le jeu dans ces premiers tours de Coupe de France et d'aligner notre meilleure équipe. Moi, j'ai hésité à faire jouer ma défense centrale type et mettre peut-être des joueurs de l'équipe réserve. Et à l'arrivée, sur la première faute que commet mon arrière central, il prend un rouge et il ne commet même pas la faute. C'est le joueur de Fleury qui est venu le dire après l'arbitre, c'est moi qui fais la faute, c'est pas lui. Et il prend un rouge direct sur la première faute. Et c'est vrai que ça, par contre, c'est très contrariant dans cette compétition-là. Parce que, en général, l'environnement nous reproche à nous, les coachs professionnels, de ne pas jouer le jeu dans les premiers tours. Mais quand il nous arrive ce genre d'histoire, vous comprenez bien que ça met en grosse difficulté dans le match championnat. Et c'est ce qui nous met très, très en colère, les entraîneurs professionnels. Dans ces tours-là, après, il ne faut pas s'étonner si en 64e, 32e ou en 16e, les clubs professionnels font tourner et font pas jouer leur équipe professionnelle parce qu'il nous arrive ce genre d'incident qui, moi, je trouve regrettable et même lamentable, quoi. C'est ce que j'ai dit aux arbitres. Voilà. Même si je regrette profondément d'avoir perdu mon sang-froid, j'ai mis là.
C'est ce qui a déclenché le colère, d'ailleurs, hein. Cette expulsion.
Ah non, moi j'étais. Ouais. On a été mauvais sur le terrain, on a pas, comme souvent les équipes professionnelles, on n'a pas joué à la hauteur des matchs de championnat. Mais au-delà de ça, ça serait très très bien passé s'il n'y avait pas eu ce carton rouge. Comme je dis aux arbitres, comment peut-on pas prendre un peu plus de hauteur quand le match se passe très bien, il n'y a aucun incident, aucune agressivité, que mon joueur ne commet pas une faute du match et la première incident, il prend un rouge. Ça, quand tu es coach et que tu fais ce métier, ça te rend fou, quoi. Ça te rend bien, à mon grand regret. Quoi.
Merci. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup.
Merci. Ouais, grand monsieur Jean-Marc Furlan, hein, effectivement, et on a pu comprendre donc sa colère. Allez, quelqu'un qui était en tout cas sur son nuage, c'est Pascal Bovis, le président de Fleury Mérogis, le truculent Pascal Bovis qui naturellement savouré cette qualification de Fleury pour les 16e de finale.
Ben, ça y est, ils l'ont fait finalement.
Oui, c'était. D'abord, ils l'ont fait et c'était mérité, je pense, sur le terrain, au bout des 90 minutes auxquelles on a assisté. C'était un superbe match, avec une belle équipe de Brest aussi en face. Et je pense que le public était content, les supporters, enfin tout le monde est content au club, c'est un rêve pour nous.
Oui, alors il y a eu une fin de match un peu difficile avec donc cette acclamation, on a eu peur quand même.
Oui, enfin il y a eu une petite erreur technique sur la tablette, elle a été refaite 4 fois. Nous, on l'avait bien faite la première fois, après à la demande de Brest, il a fallu la refaire. Mais tout est enregistré à la Fédé, il y a des logins qui enregistrent, donc normalement il n'y a pas de priori, il n'y aura pas de problème.
Tu vois, je te fair play, c'est qui fair play?
Oui, je pense qu'il faut rester fair play les uns les autres, c'est un beau match. Brest d'ailleurs, on les salue parce qu'ils ont même dit qu'ils ne porteraient pas réclamation dans la mesure où ils avaient perdu sur le terrain et qu'ils avaient une défaite logique, donc ça s'est resté là, ils nous ont laissé leur parole et une bonne poignée de main. Donc on aime cet esprit sportif.
Bon,
on leur souhaite bonne chance pour la montée en Ligue 2.
Voilà. Comment sont les gars ce soir? Donc ça va être la fête maintenant?
Oui, bah ça va être la fête, ouais, c'est super. Bon, on a fait quand même un beau parcours pour arriver jusque-là parce qu'on a quand même sorti de National, le PFC, Blanc-Duchère, 2-0, 3-0. On a été gagné aussi en Martinique, c'était pas un match facile, au Moule. Et puis là, aujourd'hui, non, c'est génial. C'est génial pour nous. Quoi. Puis on avait besoin pour le club. On est un peu. Aujourd'hui, on est un peu SDF, hein, on joue à Bondouf, c'est grâce au département d'ailleurs qu'on remercie. Mais bon, pour nous, c'est bien d'avoir un peu de lumière sur le club. Quoi.
Alors, Carquefou, quel est Quevilly? C'est des noms qui vous inspirent?
Pour le centenaire, ouais, c'est des super noms. Ouais, c'est, on adorerait, hein, parce que franchement, là, on a marqué l'histoire du club, ça c'est certain. Un peu celle du département. On aimerait marquer celle de la région, voire celle du foot français, oui. Ça serait extraordinaire pour nous.
Voilà. Comment les joueurs se sont préparés? Vous leur avez beaucoup parlé là, dans les matchs, dans les jours qu'on précédait?
Non, je pense que maintenant on a un peu d'expérience. On n'a pas eu de pression, on a eu que de la bonne pression. Pas de mauvaise pression, on n'a pas eu de stress. On était serein et on a joué au ballon et c'est ce qu'il faut faire, je pense. Voilà.
La particularité, c'est que vous connaissez déjà votre adversaire. Le tirage au sort a déjà été fait à Branche. Voilà, un déplacement à Branche.
Ça sera, je pense, très très dur. Très 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 dur. Mais on va y aller avec nos convictions et puis notre morale. Et puis voilà.
Et puis il faut se remettre dans le championnat maintenant.
Oui, aussi, oui, bien sûr. Oui. Mais bon, championnat. Aujourd'hui, cette année, c'est une année avec beaucoup de plaisir. Le football, c'est difficile. Hein. C'est pas une addition de super joueurs sur le terrain. C'est d'abord un esprit d'équipe. Et cette année, on l'a depuis le début. Ça a été renforcé avec notre voyage en Guadeloupe, pardon. Et on vit une super saison avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur. Et c'est ça aussi le football.
Bon, on va continuer. Hein, avec
allez, Fleury.
Je reviens juste moi sur le fin du match, on va dire. Dans quel état d'esprit vous étiez à la fin au coup de finale? Vous pensez que c'était fini, c'était perdu?
Alors, très franchement, on était mi-figue, mi-raisin, quoi. Et c'est bien dommage parce que, on aurait aimé tout de suite communier avec le public. Alors, certains pensaient qu'on avait perdu, d'autres, plus personne ne savait. Donc, là, ça s'est un peu éclairci, heureusement. On va attendre quand même que la commission valide tout ça.
Ouais, et comment ça marche, l'histoire de tablette, là? Vous parlez de la tablette, l'heure de la tablette, ça marche comment, enfin, la compo de match?
C'est inscrit sur une tablette informatique et après, il y a une feuille d'impression. Il y a eu des petits problèmes de saisie au départ. Donc nous, on a bien saisi la première fois. Ouais. On l'a saisi 4 fois. Et la 4e fois, il y avait sûrement une petite erreur. Mais bon, il y a des logins et il y a des mémoires sur la voilà. Donc c'est un petit bon.
Donc le 17 était bien sur la feuille de match.
Ah oui, initialement, tout à fait, bien sûr.
Ça a été compliqué.
Heureusement.
Le week-end voir avec Brest pour annuler la réclamation de la réserve.
Non, c'est des gens qui ont été d'une très grande correction.
Lorenzi et Furlan.
Ah oui. D'accord. Très très correct, très très sportif.
Et ils laissent la recette aussi ou pas?
Ils vont ils sont. Il n'y a pas de souci. C'est des gens. Je pense que c'est des gens s'ils laissent leur parole. Ouais. Ça vaut quelque chose. Et nous, voilà, c'est. Chapeau, moi je dis chapeau. Et j'espère qu'ils monteront en ligne. Hein. Voilà.
Merci. Merci en tout cas.
Ouais, c'est bien parti pour monter en tout cas en Ligue 1. Et c'est vrai qu'ils ont été très fair play. C'est Brestois, vous l'avez vu, le président Bovis, il était complètement sur son petit nuage. Allez, dernière interview, celle de l'entraîneur de cette équipe de Fleury, Bernard Bouget, lui aussi naturellement sur son petit nuage.
Bernard Bouget, ils l'ont fait finalement vos joueurs?
Oui, ils l'ont fait et ils ont fait une chose extraordinaire, battre Brest leader de Ligue 2 actuel. En plus, je pense que le contenu a été vraiment intéressant, avec des phases de jeu qu'on arrive à retrouver en championnat face au leader de Ligue 2. Je dirais c'est exceptionnel. Maintenant, on a aussi beaucoup subi par moment, mais on s'attendait aussi à subir. L'important, c'était de pas perdre le fil conducteur. C'est ce que je leur dis. Voilà, il va y avoir des moments difficiles, mais gardez le fil conducteur, gardez les principes, gardez les efforts et faites les sentiments nécessaires à aider son partenaire.
Oui. On a vu des joueurs qui n'ont rien lâché pendant tout le match. Hein.
Ah, je pense que l'objectif, sur un match comme ça, si on veut passer et battre le leader de Ligue 2, il ne faut pas lâcher de la première seconde à la dernière seconde. Et c'est une chose qu'on a réussi à faire tout au long du match.
Et comment les joueurs ont préparé cette semaine? Vous leur avez beaucoup parlé, vous avez été très très présent.
On a préparé ce match comme d'habitude, avec minutie et travail vidéo, analyse de l'équipe adverse et conseils techniques, tactiques pour essayer de gêner cette équipe.
Donc maintenant, les 16e, à Branche, vous avez tenté le coup au bout, hein, Quevilly, Carquefous, Calais, ça rappelle fatalement le souvenir.
Oui, mais je suis loin de tout ça.
Ouais.
Déjà, premièrement, parce qu'on a un match de championnat contre Lille samedi. Deuxièmement, parce qu'à Branche, si mes souvenirs sont bons, ils sont à 6-8 huitième de finale. Je crois que sur les.
Ouais.
Je crois que c'est une équipe qui fait régulièrement des perfs en Coupe de France. Donc il faudra se méfier au même titre que toutes les équipes qu'on a pu rencontrer. mais il sera assez temps fin du mois de se concentrer sur son match.
Et remobiliser comme ça des joueurs après, c'est facile de les faire repartir dans le championnat?
On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que le championnat, on est mercredi, samedi, c'est on reçoit Lille. Donc un gros match pour nous parce que Lille est classé au-dessus de nous. Donc il faudra être aussi performant et je pense que ce match contre Brest est un bel exemple pour la suite.
Une petite fête ce soir quand même.
Non, pas une petite fête parce que l'objectif c'est de récupérer. Je pense que les joueurs, il faut qu'ils aillent récupérer et demain on s'entraîne, vendredi on s'entraîne et puis samedi on joue.
D'accord. Merci.
Voilà, allez, une petite page de pub et une petite page musicale et ensuite on repart sur le terrain de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue, du championnat et de la CAN. On y va.
La Bastienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure reconnu au Grenelle de l'environnement, vous propose des devis gratuits pour la rénovation de vos fenêtres, portes, volets, stores, portails, portes de garage et même des prestations d'isolation de comble et maintenant d'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits à Bastienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement, showroom 27 rue de Chartres au Péray-en-Yvelines. Voir conditions magasin.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loi Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines 01 34 83 90. www.agendadiagnosticaupluriel.fr.
Quelques lueurs d'aéroport, l'étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort, sur Alcatraz traîne encore. Des sanglots couleur de prison, Monsieur Caryl Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Le Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills, et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Shadow, a shadow, a shadow. pauvre madame Polanski. D'un seul coup on t'a pris de vie. Mais qui donc s'en souvient ici? C'est l'hiver à San Francisco, je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow. A shadow.
Voilà, allez, donc pour finir sur ce chapitre Coupe de France, on l'a dit, donc sur ce 32e de finale, hein, c'était Sarmine qui avait fait le plus gros exploit en battant Reims 2-1. Et puis il y a eu les 16e cette semaine, donc Fleury battu à Avranches 1-0, on l'a dit, Lille qui a battu Nantes 1-0, Bordeaux qui a battu Dijon 2-1, Angers qui a donc fait tomber, on en a aussi parlé, Caen 2-1, et puis Marseille, messieurs, qui a battu Lyon 2-1, après prolongation, un beau match de foot, qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, ça a été un bon. Ça, Marseille avait pris.
Ça va redynamiser Marseille, hein.
Ouais, une ambiance, puis, enfin. Voilà, Marseille le mérite, je crois. Ils ont bien fiché. Ils reviennent de loin, ils travaillent. Bon, ils ont un excellent entraîneur. Oh, c'est logique pour moi. Mmh. Voilà, ils retrouvent un peu leur rang.
Et puis Juliette, Paris Saint-Germain qui va gagner à Rennes 4-0.
Oui, 4-0. Et puis, écoutez, c'est le prix à payer, hein, avec Paris Saint-Germain. Écoutez, Paris est prêt à tout gagner. Alors, de toutes les manières, même si le match n'est pas très bien, n'est pas très beau, même si il y a des difficultés, mais Paris gagnera et aura toutes ses coupes.
Alors, il y a quand même des équipes qui ont souffert, hein, à l'image de Monaco, hein, qui ont été battues, qui a battu Chambly 5-4 après prolongation. Les Monégasques menaient 3-0. Ils ont tremblé, ils ont souffert. Il y a eu donc Bastia CA en national qui a battu Nancy 2-0. Lorient qui s'est imposé difficilement à Châteauroux 3-2 après prolongation. Et puis il y a eu aussi Guingamp qui est allé gagner aux Herbiers 2-1 après prolongation. À noter que Strasbourg a battu ce qui était le Cendrillon Poiré-sur-Vie 1-0 seulement. Et puis Bibi, donc deux grosses aussi surprises. La hiérarchie qui a été bousculée. Bergerac qui balance 2-0. Et puis Auxerre qui bat Saint-Etienne 3-0 après prolongation dans la prolongation. Alors qu'il y avait 0-0 après le temps réglementaire.
C'est plus battre, c'est humilier, quoi. Perdre 1-0 dans les prolongations, ça se conçoit. Mais là, les gars, ils ont. C'est un objectif pour Saint-Étienne, la Coupe de France. Hein. Ouais. Ça a été clairement affiché. Ouais. On avait dit cette année, il nous faut la vieille dame, la Coupe de France, il nous la faut. Bon, quand on n'est pas capable de battre une équipe comme Auxerre, sans la sous-estimer, hein. Enfin, qui a quand même pas.
Auxerre qui a été battu hier à domicile par Orléans 2-0, qui va vraisemblablement donc
retomber en national. C'est là où faut retomber les pieds sur terre, se dire que bon, on est bien content d'être 5 ou 6e pour l'instant, en espérant qu'on ne redescende pas au classement. Voilà, c'est tout. Ça a été très mauvais, très moyen.
Alors pour l'instant, oui.
Juste, Juliette. Je voulais dire, j'ai pas l'habitude de féliciter les arbitres parce que quelquefois aussi je suis pas tellement d'accord avec eux. Mais Rennes PSG, alors là, l'arbitre était de talent. C'était vraiment un arbitre de qualité et les autres pourraient prendre
Juliette
exemple sur lui.
Félicite les arbitres. Le 5 février 2017.
Voilà. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? C'est l'arbitre de Rennes PSG, est un arbitre de base de Ligue 2, donc un arbitre qui a tout approuvé, qui peut se démarquer auprès de la commission. Alors que quand on voit les arbitres de Ligue 1 qui vont arbitrer les matchs de Ligue 1 ou même de Coupe de France, c'est les mêmes problèmes à tous les matchs.
Oui, mais lui, au moins, il était avec les joueurs, il leur parlait, il les prévenait d'une sanction qui allait tomber, il était souriant, c'était le l'arbitre qui touchait le joueur, il n'y avait pas de problème. Mais tandis que quand on a vu Verratti qui a touché l'arbitre du match de la 22e journée, il a fait un bond en arrière. On avait l'impression que il voulait pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas.
Cet arbitre est bon actuellement, l'année prochaine il va monter en Ligue 1 et l'année prochaine il sera mauvais.
Non, pas du tout. Il sera un bon arbitre.
En tout cas, c'est bien. C'est bien que Julien Trouvel qui a félicité les arbitres. C'est très bien. Allez, donc 8 clubs de Ligue 1, trois clubs de Ligue 2, trois nationales et deux CFA. C'est ce qui reste donc en huitième de finale de cette Coupe de France. On aura un gros choc, Marseille-Monaco. On aura un autre match de Ligue 1, Bordeaux-Lorient. Et puis Juliette, Paris Saint-Germain qui ira jouer donc à Niort. Voilà. En Coupe de la Ligue, on s'était quitté. Paris Saint-Germain-Monaco, on pouvait pas rêver meilleure finale. On va quand même rappeler que Nancy avait battu Nantes 2-0, que Monaco quand même difficilement s'est imposé dans cette Coupe de la Ligue sur tous ces matchs. Ils sont là, ils avaient fait match nul contre Sochaux un partout avant de s'imposer au tir au but 4-3. Victoire de Bordeaux devant Guingamp 3-2. Et Paris qui avait remarquablement bien maîtrisé son quart de finale face à Metz 2-0. Je me souviens de ce match. Ce soir-là, Paris aurait pu gagner 4 ou 5-0.
Oui, hein,
avec
fait,
un peu plus d'adresse peut-être,
problème,
et puis aussi sans un bon gardien messin.
C'est que les joueurs, dès qu'ils marquent 1, 2, 3 buts, ils s'arrêtent. Alors qu'ils peuvent en marquer 4, 5, 6. Mais bon, ils s'arrêtent là. Mais enfin, bon, je vais poser une petite question encore, à savoir, la commission de l'antidopage, est-ce que cette commission fonctionne avec tous les clubs à l'heure actuelle, je dirais du premier jusqu'au dixième, comme ils ont fonctionné avec Paris les autres années? Parce que Paris était sans arrêt contrôlé. Alors, est-ce que ces contrôles-là se font aussi à la date d'aujourd'hui? Est-ce que tous ces clubs, à l'heure actuelle, ont le même nombre de contrôles par rapport à Paris Saint-Germain? Et je dirais même que lors d'un contrôle, Zlatan était resté enfermé dans la pièce. Ils avaient oublié de venir le voir pour le contrôler. Alors peut-être ils étaient déjà au champagne, mais quelque part, ils sont arrivés et ils lui ont dit qu'ils pouvaient partir. Alors que ce soir-là, le club était en train de fêter la coupe.
Eh bien Juliette, la réponse à ta question est oui. Tout le monde est contrôlé à la même valeur.
Et bien sûr.
Au même taux.
Tout le monde. Et puis de toute façon, si un club devait être favorisé, pense que Paris, avec l'argent qu'ils ont, ils seraient certainement plus favorisés qu'un autre club.
Alors arrêtez de parler d'argent. Hein, c'est pas une question d'argent.
Mais c'est le terrain qui nous intéresse.
Oui.
Voilà. Donc on va quand même rappeler qu'en demi-finale, donc Paris a battu Bordeaux 4-1, alors que Nantes, que Monaco a peiné devant Nancy 1-0, Paris Saint-Germain. Monaco, ça veut dire que Paris va jouer sur les quatre tableaux, Juliette. On parlait de la Coupe de France, on parlait de la Coupe de la Ligue. Ça veut dire que Paris va quand même, malgré tout, jouer sur les quatre tableaux.
Sur les deux tableaux.
Sur les quatre tableaux, c'est-à-dire championnat, Coupe d'Europe, Coupe de France,
Ligue. Et puis bon, la Ligue des champions, prochainement. Et puis bon, le championnat. Alors le championnat, Paris sera champion.
Alors justement, le championnat. On y vient. Paris Saint-Germain, Monaco, c'était l'affiche de cette 22e journée. La semaine dernière, 1-1. Match moyen, on est resté un peu sur notre fin sur le plan du spectacle, même si tactiquement, c'est un match sans
bord. Ils se sont fait avoir parce qu'ils ont un petit peu...
Je pense que Monaco, en ce moment, ils sont quand même un petit peu au-dessus, avec Paris, bien sûr, c'est les deux qui sont au-dessus du lot. Et le match donc de la semaine dernière, Paris Saint-Germain-Monaco, je dirais, pourtant je suis supporter de Paris, je dirais que le résultat est logique. Le match nul est équitable.
Oui, je pense,
Il n'y a pas eu un grand spectacle, comme tu le dis là il y a à l'instant.
Ouais, mais comme très souvent, dans ce
c'est vrai
de
que
match,
entre deux grands comme ça, ça se maîtrise au milieu, surtout la bataille du milieu qui peut décoincer le match. Et là, les Monégasques ont quand même un bon milieu de terrain. Notamment avec Bernardo Silva, et puis ils ont quand même, faut le souligner, la meilleure attaque d'Europe avec 100 buts, toutes compétitions confondues, et quand même ça c'est une marque des très grands quand même.
Alors hier ils ont battu Nice 3-0, ils avaient été gagnés il y a quelques semaines à Marseille 4-1. C'est une équipe qui a marqué.
Ils ont pris la revanche du match aller, puisque je crois, il me semble qu'ils avaient été battus 4-0 à Nice, et donc là ils ont remis les pendules à l'heure, et je pense que au niveau du championnat ça se jouera entre le Paris Saint-Germain et Monaco pour les deux premières places. Je pense, bon, un petit avantage peut-être pour l'instant pour Monaco, mais je pense que Paris va revenir, et puis après dans les cinq, dans les autres. Je vous avais dit il y a quelques temps que Nice allait dégringoler un petit peu. Je maintiens, je signe. Je pense qu'ils vont finir dans les cinq premiers, mais il y a Marseille qui risque de revenir.
Marseille devant les grandes équipes n'arrive pas à gagner.
Oui, mais faut pas oublier que c'est une équipe.
Ils ont une défense. Ils ont été battus aussi par Lyon 3-1. Et ils ont une défense où face au gros.
Mais c'est une équipe qui est en pleine reconstruction. Là, Garcia, il a pris Evra pour stabiliser un petit peu la défense. Et au milieu, Dimitri Payet, je pense que pour cette année, bien sûr, les transferts sont finis, ça va être tout. Je pense qu'il va stabiliser l'équipe. Et Marseille reviendra l'année prochaine grâce au mercato d'été. Et je pense qu'avec Rudy Garcia, ils vont faire quelque chose de bien. Bon, ça sera bien qu'on ait deux ou trois clubs dans les hauts du tableau, Monaco, PSG et Marseille.
Ils peuvent aller chercher une Europa League.
Je pense qu'ils vont finir dans les cinq premiers avec Lyon, Paris Saint-Germain, Nice et Monaco.
Par contre, devant les équipes, un gros potentiel offensif, la défense elle est un peu légère et c'est peut-être pour ça qu'il a fallu donc la renforcer. En tout cas, il va y avoir donc un fait marquant dans cette deuxième moitié de championnat, c'est le mercato. Arnaud, ça peut jouer parce qu'on a eu un mercato quand même très 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 mouvementé. Rarement on a vu un mercato aussi vivant pour ce championnat de Ligue 1.
Ouais, aussi vivant pour trois équipes. Pour moi, le mercato n'a pas été mouvementé, il a été mou. À part Paris, Marseille, un petit peu Lyon.
Oui, mais on voit des joueurs quand même de notoriété arriver dans notre championnat, quand même, c'est bien.
Ouais, enfin, Lille a recruté, mais Lille a recruté des plots, on l'a vu hier soir, donc.
Non, mais Paris a recruté, Marseille, Evra puis Payet revenir, c'est quand même important.
Pour Marseille et Paris, c'est une vraie plus-value. Après, par exemple, il y a Lyon qui a recruté Depay, là, on pourra demander à Bibi ce qu'il en pense, mais pour moi, Depay, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis presque un an au niveau. C'est un nom sur la feuille de match, mais derrière ça, plus rien.
Entièrement d'accord avec toi. De toute façon, tout le monde en parle, ça nous arrange, tout le monde en parle. Apparemment, ce soir, il est aligné. Apparemment, ce soir, il va nous faire exploser, mais on l'attend, quoi.
Arrêtez que c'est le petit frère qui est venu. Je l'ai lu. C'était pas de Frey le vrai.
Oui. Hmm? Si, parce que si il jouait remplaçant, mais là, il est dans un autre club, ça va être autre chose.
Oui,
méfiez-vous de ça. Faut pas dire qu'il n'a pas, il jouait pas en Angleterre.
Donc, les renforts, les transferts importants ce mois de janvier, Arnaud, on l'a dit, notamment du côté du PSG. Hein.
Les transferts importants du côté du PSG, il y a Julian Draxler qui a signé pour 36 millions.
Quelle recrue,
il y a Gonçalo Guedes, qui a signé pour 30 millions. Il y a Giovanni Lo Celso qui est arrivé cet été, mais qui commence à jouer depuis le mois de janvier. Qui commence à jouer, c'est un grand mot, il a toujours pas été aligné sur une feuille de match officielle. Qui a signé depuis Rosario pour 10 millions. Donc ouais, c'est un très bon recrutement offensif pour le PSG. En plus, il y a Julian Draxler qui joue très bien depuis son arrivée.
Mmh. Réré est parti par contre.
Comment ?
Réré est parti.
Ressé est parti.
Oui, Ressé, J'oublie l'espagnol, moi.
Il est parti en prêt à Las Palmas. Il a failli aller à Middlesbrough. Écoutez, il va retourner à Las Palmas, lutter avec ses enfants cachés, avec son évasion fiscale. Ce joueur, c'est un gros coup de Zidane en l'ayant vendu au PSG parce que c'est une arnaque totale.
Oui.
Et aujourd'hui, on nous l'a refourgué au PSG. Et le PSG n'a rien pu en faire. Un petit peu comme Ben Arfa depuis son arrivée. Ouais.
Voilà, non, donc, Ben Arfa, ça va mieux quand même.
Alors, Marseille, ça c'est bien aussi. Payet et puis qui revient, puis Evra, c'est important.
Bah, je parlais de Plo à Lille. Marseille, depuis le début de la saison, une équipe de Plo. Donc là, forcément, un mec, un leader des vestiaires comme Evra, un très bon joueur comme Payet, mais qui a fait des pieds et des mains, et même très impoliment pour partir de West Ham, pour revenir à Marseille. Ça peut être que positif pour Marseille. Après, on verra par la suite de la saison. Il a fait signer Evra, qui est déjà blessé. Payet était sur le banc des remplaçants depuis son arrivée. Après, oui, Marseille peut être tiré vers le haut.
Faut se méfier parce que je pense que Dimitri, il arrive un peu avec la grosse... Enfin, c'est le ressenti que j'ai. Il arrive un peu avec la grosse tête à Marseille.
Il va s'en faire une santé.
Ouais, mais il a intérêt parce que s'il reste 2-3 matchs et qu'il fait rien, il va certainement avoir leur tour.
Je pense que Rudy Garcia va le recadrer. C'est pas un entraîneur quelconque.
C'est le contexte marseillais.
C'est le contexte marseillais. C'est pas
le rien. C'est un Vélodrome qui revibre.
Oui, ça me fait plaisir. Moi, je suis content, même si je suis pas marseillais. Très content.
Mais je pense que pour l'instant le patron sur le terrain c'est l'entraîneur. Il est là et je pense qu'il va mettre de l'ordre.
On a l'exemple à Saint-Étienne. Oui. On a toujours notre patron. Si derrière les joueurs ça suit pas, s'ils ont plus la niaque, s'ils ont pas on voit le résultat.
On le disait ici il y a quelques semaines, le projet de Marseille de toute façon est très intéressant. Il peut être que tiré vers le haut et à la fin ça peut faire de très bons résultats.
Oui.
Et je suis quasi persuadé que l'année prochaine le titre se jouera entre Paris, Monaco, Lyon et peut-être une équipe comme Marseille.
Il faut laisser le temps au temps.
Oui, c'est sûr. Mais enfin, au moins, il y a une direction et il y a un cap. Arnaud, pour le reste, pour les transferts, marquant
Angers a signé Issa Sissoko qui avait joué à Nantes depuis le Genoa. Bastia fait plutôt un bon recrutement avec Prince Onyonge qu'on connaissait qui avait joué à Reims chez nous. Il y a Alexis Thébault, le gardien du PFC, qui a signé à Bastia également pour suppléer Jean-Louis Leca. Younous Sankaré à Bordeaux, Mathieu Bonnemer à Guingamp.
Oui.
Enfin, très bonne recrue en plus. Oui. C'est un joueur.
Justement, Patrice Garande dans la conférence de.
Justement, Patrice Garande. Il commence à avoir des kilomètres au compteur. Hein.
Oui. Oui, mais. Justement, Patrice Garande, dans la conférence de presse à la Coupe de France, c'est une question qui lui avait été posée et il avait dit que ça se ferait pas, donc du coup, il s'est retrouvé sur Guingamp. Bonnemer.
Pour Lille, on l'a dit, c'était 7 recrues le 31 janvier. 7 recrues, donc il y a eu par exemple Balouli, Elghazi, Kishna ou Sheka. Pour être très franc avec vous, à part Fares Balouli qui a joué à Monaco, je ne connais aucun joueur.
Ouais. Bah, apparemment, c'est des jeunes qui sont en devenir. Donc, c'est ce que j'ai lu.
Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, ouais.
C'est des jeunes qui sont en devenir, mais pour lancer un projet, moi, je pense qu'il faut des piliers, il faut de la maturité. Actuellement, c'est pas ce qu'il y a à Lille. Donc,
ouais, mais cette année, de toute façon, à mon avis, on va finir la saison comme ça et puis on verra l'année prochaine.
Oui, et puis Lille, c'est une équipe très, très aléatoire. La semaine dernière, elle va gagner à Lyon. Hier, elle perd à domicile contre le 20e Lorient. Il y a un projet un petit peu comme Marseille, il y a un projet à lancer, mais quoi qu'il arrive, c'est très bien pour la Ligue 1 d'avoir des équipes avec des projets intéressants. J'ai cru comprendre que Saint-Etienne allait se faire racheter également.
57%.
Oui, il a changé de main, il y a une semaine, il y a 15 jours, hein. Il a changé de propriétaire.
Non, mais très honnêtement, c'est
on
sympa.
On va devenir propriétaire alors, de notre stade. Est-ce que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas voulu recruter, enfin, ils cherchaient pour le mercato à se faire prêter des joueurs? Vous voulez pas en acheter parce que voilà.
Est-ce que si Saint-Etienne se fait racheter, est-ce qu'il y a un recrutement intensif qui est prévu pour cet été ou ça sera comme actuellement?
Je pense, hein, je suis pas dans le secret des dieux non plus. Hein, après,
on va appeler le président Romeyer.
On a son numéro, Fifi va l'appeler. Non, mais c'est bon, mais de toute façon, à un moment, Saint-Etienne, fallait que ça passe par là, comme beaucoup de clubs, si on veut avancer, quoi.
Mmh. Bon, si on veut progresser, de toute façon, il faut les investisseurs.
Maintenant, bah, c'est sûr qu'il faut injecter pour avoir des bons joueurs, il faut investir, hein, c'est sûr.
À Lyon, mis à part Memphis Depay qui a signé, c'est Gaïda Fofana qui quitte Lyon prématurément. C'est une fin de carrière pour des problèmes cardiaques, si je dis pas de bêtises.
Oui, j'ai lu ça, ouais.
Clément Grenier d'arrêter sa carrière, ouais. qui signe, qui est prêté à la Roma, et Aldo Kaloulou qui est prêté à Rennes. À Metz, très bon retour, c'est Cheick Diabaté, le géant malien de 2 mètres avec ses grandes cannes qui arrive de Turquie et qui va essayer de redynamiser l'attaque de Messine. À Monaco, rien à signaler, il y a juste le départ en prêt de Corentin Jean et de la Sina Traoré.
Ils ont un banc déjà, eux. Donc,
Il y a Georges, il n'y a pas un joueur qui s'appelle Georges, qui est arrivé à.
Pour.
J-O-R-G-E.
Pour Nancy, c'est. C'est plutôt négatif, c'est Clément Langlais, la base de la défense nancéenne qui signe au FC Séville, qui a déjà commencé à jouer d'ailleurs. Metz et Nice, rien à signaler d'important. Donc le PSG, on en a parlé. Il y a également Sirigu qui est prêté finalement à Osasuna. Avec
club espagnol.
Quand on connaît les problèmes de gardien actuel du PSG, Sirigu qui s'enfonce, qui est prêté, Trapp qui est blessé, Areola qui est méconnaissable depuis une dizaine de matchs. À Rennes, donc on l'a dit, il y a Kaloulou, il y a Raïs Mboli, le gardien algérien qui va venir aider Benoît Costil et Morgan Amalfitano pardon, qui arrive de Lille. À Saint-Étienne, il y a eu l'affaire Anthony Mounier, arrivé, reparti de Bologne vers l'Atalanta. Je pense qu'on va éviter d'en parler.
Oui.
Sinon, il y a un milieu de terrain portugais qui s'appelle Jorginho, qui a signé à Saint-Étienne. Ça symbolise le très beau recrutement de.
Même notre ami José ne le connaît pas, donc.
Mais écoutez, ça, Saint-Etienne, je pense qu'ils auront l'ambition de gagner avec des champions dans un an.
Ouais.
Et enfin, Andy Delors qui signe à Toulouse, donc qui a fait un petit peu comme Payet, des pieds et des mains pour partir du Mexique après être arrivé il y a 6 mois.
Quel gâchis aussi, ça.
Et pour Toulouse, je trouve que c'est un transfert très dangereux, pardon, parce que c'est 6 millions pour Andy Delors. Sans oublier le transfert, c'est un transfert sur 3 ans et demi, je crois. Donc financièrement, c'est un gros risque de prix par le FC Toulouse.
Il était annoncé à Saint-Etienne, hein, puis on n'en a pas voulu. Hein. Mais il était pratiquement...
Allez, la deuxième page de pub, messieurs, on y va.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez votre devis gratuit au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'Environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir, le midi du lundi au vendredi, le menu express entrée, plat ou plat dessert à 15 euros. Le menu Amaris, entrée, plat, dessert à 19 euros. Le soir du lundi au vendredi, son menu gourmand à 25 euros. Le restaurant Amaris, c'est une carte style brasserie avec ses plats traditionnels composés avec des produits frais du jour. Pour un moment privilégié, professionnel, entre amis ou en famille, choisissez le restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Voilà, puis vous n'oubliez pas cette émission podcast dès le courant de la journée, tout comme celle de des semaines précédentes, et puis de l'émission sur la Reine du Muguet, puisqu'on les avait reçues donc la semaine dernière. Allez Arnaud, donc la suite et fin pour ce
sur mercato. Sur les transferts internationaux, ça a été marqué par l'arrivée de la Chine sur sur le marché des transferts. Il y a Oscar qui signe à Shanghai, Alex Witsel qui signe à Quanjian, Alexis Pato également. Il y a Carlos Tevez qui signe également à Shanghai, et enfin John Obi-Mikel qui signe à Teda en Chine. Ensuite, sur les Français, il y a Morgan Schneiderlin qui passe de Manchester United à Everton. Très bonne recrue pour Manchester City à l'attaque, avec Gabriel Jesus qui arrive de Palmeiras pour 32 millions. Et enfin, on peut parler de Mbaye Niang, le français fou de l'AC Milan, qui arrive en prêt à Watford pour essayer de se relancer.
Et Lampard qui a pris sa retraite.
Et Lampard, je vois Juliette qui parle, ça me fait penser au PSG, c'est Mamadou Sakho qui est prêté à Crystal Palace depuis Liverpool.
Voilà pour donc ce marché des transferts assez abondant donc pour ce mois de janvier. Un petit mot, qui va gagner la finale de la CAN, Égypte-Cameroun?
Le Cameroun.
Ça fera plaisir à Rémi Ngono.
Oui, c'est très dur à prononcer. Ouais. Ce sont deux équipes qui reviennent limite de nulle part. Le Cameroun qui avait connu le fiasco à la Coupe du Monde. L'Égypte qui, depuis 6 ou 7 ans, n'a absolument rien fait sur la scène africaine. Donc, ça, quoi qu'il arrive, ça sera une finale très intéressante à suivre, et c'est très incertain. Ouais.
Oui, et une CAN un peu plus intéressante que ces dernières années où ça avait été un peu moins passionnant. Merci en tout cas d'être venu commenter l'actu foot. On se retrouve début mars, le 5 mars. On aura bien avancé dans le championnat. On aura bien avancé en Coupe de France. Et puis, on aura retrouvé les Coupes d'Europe. Bon dimanche à toutes et à tous. Et puis, nous, on se retrouvera ici pour Tribune Sport. Merci à Jean-Pierre d'avoir été ce dimanche aux manettes. Et c'est Victor qui reviendra donc la semaine prochaine. Salut à toutes et à tous et bon dimanche.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnut.